Bienvenue sur Radio Graphite 94.9, les échos de l'innovation. Une émission pour essayer de mieux comprendre les enjeux que l'innovation implique, ce qu'elle nous permet, mais aussi ce en quoi l'innovation peut nous menacer. Bref, au-delà d'elle, il s'agit d'entendre ses échos, car cette dernière peut avoir des répercussions partout, à tous les échelons de la société. Que faire de la raison à l'heure de la crise écologique ? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec nos invités. Elle peut paraître de prime abord assez conceptuelle et philosophique, même si nous allons le voir, la réponse qu'on donne à cette question entraîne des positions beaucoup plus concrètes et politiques. La raison, c'est une notion philosophique ancienne qui a trouvé un renouvellement au XVIIIe siècle, celui des Lumières, qui s'est accompagné de l'avènement de l'idée de progrès. Une idée de progrès qui glorifiait les sciences et la technique. Or, on sait bien aujourd'hui que cette rationalité a permis un développement industriel en partie responsable de la crise environnementale actuelle, et ce, à tous les niveaux. Donc, l'augmentation du carbone dans l'atmosphère, la destruction des fonds marins, en passant par l'effondrement de la biodiversité, tout ça, c'est quelque chose qui a trait à l'industrialisation. Par conséquent, de nombreuses personnalités ont fait et font encore aujourd'hui le procès de la raison, perçu comme le moteur de l'idéologie de progrès et prédatrice de l'environnement. Au-delà de la question du progrès et de l'industrialisation, il y aurait une tension, en fait, au sein même de la notion de raison, qui tend à nous extraire de notre environnement et nous placer en face de la nature, en face du monde, et donc à le réduire à des équations mathématiques, à des ressources à exploiter, en somme, à un monde à dominer. Pour autant, est-ce qu'il faut vraiment jeter la raison avec l'eau du bain de cette rationalité industrielle et dominatrice ? En effet, les sciences, issues d'une raison abstraite et instrumentale, sont aussi responsables de l'arrachement de l'homme à son environnement et de l'industrialisation massive, certes, mais elles sont aussi celles qui permettent, via les modèles qu'elles proposent, de comprendre les phénomènes, les risques, et aussi de faire des prévisions concernant la crise climatique. Et donc dans ce cas, la raison, elle semble être une de nos principales alliées dans la lutte pour la sauvegarde des conditions d'habitabilité de la planète. D'ailleurs, les opposants au combat écologique sont aussi les premiers opposants et détracteurs des modèles climatiques. Alors, que faire ? Comment sortir de ce dilemme cornélien entre ce qui semble être l'abandon de la raison et sa sacralisation d'autre part ? Que faire alors même que la raison semble à la fois responsable de la crise environnementale et notre meilleur outil pour lutter contre cette dernière ? Que faire alors que les deux principaux ennemis de la lutte environnementale semblent entretenir des positions qui sont contradictoires au sujet de la raison ? En somme, comment sortir du dilemme entre Trump et Musk ? Quel chemin de crête endosser entre des populistes qui sont à la fois réactionnaires et climato-sceptiques, qui remettent en cause les modèles émis par la science, et des technosolutionnistes qui sont à la fois scientistes, c'est-à-dire qui idolâtrent la science, et à la fois climato-rassuristes, qui nous expliquent que le changement climatique n'est pas si grave et qu'on parviendra à le régler grâce au développement technologique. Comment se positionner pour s'opposer à la fois à ceux qui nient la raison et à ceux qui l'idolâtrent ? En somme, que faire de la raison à l'heure de la crise écologique ? Pour répondre à cette question, nous invitons deux enseignants-chercheurs de l'UTC, Guillaume Carnino, historien des techniques, et Hugues Choplin, philosophe. J'aurai pour m'accompagner également Sylvère Châtaignon, président de Compiègne en Transition, l'association écologique de l'UTC, et ancien président du Café des Lumières, association de débat politique et philosophique de l'UTC, et Cléo Lesage, à la technique.
Alors, je vais poser la première question pour en revenir à nos protagonistes. La posture d'Elon Musk, qui est vraiment l'archétype de la pensée ingénieure et qui va de pair avec une foi absolue dans la science et la technique. Bref, il confère à la raison le pouvoir de régler tous les problèmes de la crise climatique. C'est une position qui n'est pas nouvelle. Mais d'où vient cette foi dans la raison ? Comment s'est-elle construite historiquement, Guillaume Carnino ?
Alors, répondre à cette question implique qu'on soit d'accord sur le terme de raison, et je ne suis pas certain qu'on soit complètement d'accord, parce qu'on en fait une espèce de grand fourre-tout dans lequel toute pensée logique organisée, ce serait la raison avec un grand R, et c'est à prendre ou à laisser. Il y a des courants de pensée, historiquement, qui ont mis ça en discussion. L'un des plus connus en la matière, c'est un certain nombre d'héritiers de l'école de Francfort, qui se construit à la suite des travaux de Theodor Adorno et Max Horkheimer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'un d'entre eux, Herbert Marcuse, mobilise assez directement une opposition interne à la notion même de raison, où il explique d'une certaine façon, dans l'homme unidimensionnel, il considère que La raison a deux faces, en quelque sorte. Ou plutôt qu'elle montre deux faces à l'époque où il écrit, c'est-à-dire dans les années 1960. Elle montre deux faces et que l'une d'entre elles, qui est l'une des premières historiquement, qui se construit à partir de là pour ce que l'on appelle par la suite la raison, c'est la raison dialogique, le logos. Le logos, c'est la raison qui se construit par l'échange dans la parole. Et c'est pas qu'une figure de style, c'est la pratique réelle et technique de la philosophie à l'époque. En Grèce ancienne, où on ne peut pas écrire directement pour produire de la pensée, on parle, on échange, et c'est après coup que la matérialité de l'écriture étant tellement complexe, il faut tuer des animaux, avoir du parchemin pour faire ça, ou du papyrus plutôt, et donc obtenir par des plantes ou par des bêtes des moyens d'écrire qui sont très compliqués, et c'est par la suite seulement qu'on écrit. Mais donc la raison, elle se veut d'emblée être dialogique. Le logos, c'est le verbe qui est créateur, c'est la pensée qui se construit dans la discussion. À ce logos, Herbert Marcuse, il oppose la ratio, qui serait plutôt héritière d'une volonté calculatoire, la ratio qui est plutôt un terme latin, et qui renverrait à une volonté de calcul pour le pouvoir. Il en vient à appeler ça la rationalité instrumentale, que vous avez d'ailleurs plus ou moins paraphrasé dans la présentation de l'émission. Et Marcuse oppose donc, on pourrait dire, une forme de raison dialogique et raisonnable à la rationalité instrumentale. Sa thèse dans le livre « L'homme unidimensionnel », c'est de considérer que les sociétés contemporaines ont complètement aplati la raison dialogique est raisonnable, en quelque sorte, l'ont aplati par le recouvrement, où on détruit la raison dialogique et raisonnable, on détruit cette raison par le recours à la rationalité instrumentale. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a des choses qui sont très rationnelles, mais qui ne sont pas raisonnables. De façon triviale, on pourrait dire, je ne sais pas, exemple que je prends toujours, on a des statistiques qui nous montrent qu'il y a plus de chances de mourir dans un accident de voiture que dans un accident d'avion en fonction pour le même nombre de trajets réalisés, puisqu'on a plus de chances de mourir dans un accident de voiture que dans un accident d'avion, eh bien je décide de ne prendre plus que l'avion. C'est très rationnel à un certain niveau, mais c'est pas du tout raisonnable. Je vais pas me déplacer uniquement en avion parce que ces statistiques me disent ceci ou cela. Donc en ce sens, c'est ce que nous dit Herbert Marcuse avec un exemple que tous ces penseurs ont puisqu'ils écrivent après la Seconde Guerre mondiale, c'est le nazisme, en disant c'est très rationnel le nazisme, pas du tout pour dire que c'est bien, hein, c'est pas ça le point, mais ils disent produire une industrie de la mort, tuer des gens par millions, ça nécessite d'avoir une organisation des trains extrêmement précise, de pouvoir rassembler des gens dans des camps, d'avoir des ingénieurs qui sont là à optimiser des process de mise à mort avec de la production de gaz, des chambres de mise à mort. Tout ça, ce sont des process extrêmement rationalisés. C'est une véritable industrie de la mort. Un sociologue, Zygmunt Bauman, a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, il l'appelait « Modernité et Holocauste », hein, en montrant que c'est vraiment un savoir-faire de rationalité technologique et instrumentale qui est mobilisé dans ce cadre-là. Mais évidemment, c'est tout le propos de Marcuse, c'est de dire ce n'est pas du tout raisonnable. Évidemment, il y a une dimension rationnelle dans cette industrie de la mort, mais ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas souhaitable, c'est à l'opposé de ce qu'il faut faire, hein, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça, quand on dit la raison, est-ce que c'est Musk ou Trump, ni l'un ni l'autre, hein, mon capitaine, moi, c'est ce que j'ai envie de répondre, dans le sens où c'est pas un grand package dont il faudrait tout saisir d'un seul coup ou rien, tout ça, ça se construit aussi, et ce sont des termes qu'on va mettre ensemble à un moment donné, dans lesquels on fait un package. Et on dit, ça, désormais, c'est la totalité de la raison. Soit vous êtes irrationaliste, soit vous êtes du côté des scientistes. Et il me semble que c'est d'ailleurs l'une des grandes duperies de notre temps, de nous dire, bon, si vous êtes pour vous mobiliser sur des questions environnementales, alors vous voulez revenir à la bougie. Et ça, c'est la plus grande supercherie qu'on puisse faire en la matière. Parce que c'est loin d'être la seule alternative. Nucléaire ou la bougie, il y a autre chose.
Très bien, merci beaucoup du coup, pour ce retour historique. Hugues Choplin, est-ce que vous retrouvez dans la tradition philosophique la même distinction? Qu'en disent les philosophes? Qu'ont-ils pensé sur cette raison?
Oui, on retrouve en partie la distinction que fait Guillaume, là, disons, entre raisonnable et rationnel. Alors effectivement, en termes de retour historique, là, Guillaume était au XXe siècle, plutôt après le nazisme. On peut remonter encore un petit peu en arrière, dans l'époque qui est traditionnellement appelée en histoire de la philosophie le rationalisme. Alors, l'idée, c'est pas de faire de l'histoire de la philosophie, là, on est à l'heure de l'écologie, mais ce que je voudrais mentionner, c'est des éléments, évidemment, qui peuvent nous parler par rapport à la situation et la gravité de la situation contemporaine et écologique. Alors, un petit retour en arrière, donc ça va de Descartes à Kant, disons, le rationalisme, pour faire vite, hein, 1640-1780, à quelques années près. Et donc là, il y a quelque chose, je ne sais pas si, comme disait Martin, il y a une sacralisation ou une idolâtrie de la raison. Il y a quelque chose, ni une fois, comme tu disais, Silver, il y a quelque chose comme... Il y a un rationaliste qui considère la raison comme une réalité exceptionnelle. Je dirais qu'il y a un exceptionnalisme de la raison, peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que toujours les philosophes ont considéré, hein, Guillaume le disait, que la raison, c'est important, hein, le logos, c'est important. Mais à cette époque-là, la raison, c'est pas simplement important, c'est pas une spécificité humaine, c'est quelque chose, simplement une spécificité humaine, c'est quelque chose qui nous distingue du reste, si je puis dire. Avant, on est des animaux rationnels. À cette époque-là, on n'est pas des animaux rationnels, on n'est pas des animaux qui ont la spécificité d'être rationnels. On a quelque part, on n'est plus dans la nature avec la raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec la raison, c'est ça l'esprit des Lumières, l'esprit des droits de l'homme, qui fait qu'on n'est plus dans la nature, on est un peu hors nature, d'une certaine manière. C'est même plus de l'anthropocentrisme, pour revenir à des questions écologiques ou sur fond de questions écologiques. L'anthropocentrisme, c'est chez Aristote, c'est encore l'humain, il est spécifique, il est peut-être au centre de la nature, mais il est encore dans la nature. Avec la raison, et en particulier avec un truc très particulier qui est chez Descartes et chez Kant, qui est le lien avec l'infini, avec l'idée d'infini, c'est-à-dire avec l'idée de Dieu. La raison et l'idée de Dieu, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les questions écologiques? Dominique Bourg, il fait le lien entre cette idée d'infini et l'illimitisme qui serait le nôtre aujourd'hui. L'illimitisme, c'est-à-dire notre... Alors le lien, on peut discuter, à mon avis, il faut qu'il soit discuté, mais l'illimitisme, c'est notre capacité à franchir les limites planétaires. Vous savez, les 9 seuils bio-géochimiques, là, qui mesure la gravité de la situation, le danger de la situation dans laquelle on est. Bon, tchakolap, ça c'est la situation contemporaine. Si on revient en arrière, il y a quelque chose, un rapport à l'infini qui constitue la raison, et qui constitue la raison comme une réalité, d'une certaine manière, entre la nature et Dieu. On pourrait dire quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qui ne relève pas de l'anthropocentrisme, qui relève de l'humanisme. Et l'humanisme, donc vous voyez, dans le sens, et après j'ai terminé, d'une certaine manière, évidemment, c'est quelque chose qui doit être défendu. C'est l'humanisme rationaliste, hein, ça fait beaucoup de isme, mais c'est aussi quelque chose qui nous sort de la nature, qui nous sort de la nature, et de ce point de vue-là, qui nous prépare pas spécialement, c'est le moins qu'on puisse dire, à respecter le droit des vivants non humains.
Merci beaucoup. Alors justement, là, c'est très intéressant parce que voilà, vous datez l'apparition de ce rationalisme, voilà, l'époque Descartes-Kant, etc. Et Guillaume Carniot tout à l'heure parlait de logos et ratio et le fait que voilà, il y a pendant très longtemps une distinction. Qu'est-ce qui, à partir de quand? Vous parlez du rationalisme Descartes-Kant, cette époque-là. À partir de quand, Guillaume Carniot, le ratio a commencé à primer sur le logos? Vous avez parlé du nazisme tout à l'heure. Ou est-ce que c'est antérieur à ça? Comment le ratio a-t-il primé sur le logos?
C'est la ratio. Plutôt, c'est le ratio, ça serait un rapport statistique. Mais je suis incapable de dater ça, et c'est le principe de tous les travaux en histoire, de dire on peut toujours remonter avant, trouver une rupture antérieure, etc. Donc ça, c'est... Je pourrais pas le dater précisément, mais c'est certain qu'il y a quelques moments de scansion importants. Il y a ce qu'on a, à mon sens, très mal nommé la révolution scientifique, qui est tout à fait contemporaine du rationalisme dont tu parlais, Hugues, à l'instant, qui est aux alentours du XVIIe siècle. C'est Copernic, Galilée, puis Newton, pour les plus célèbres, mais en fait c'est un mouvement de fond qui fait que dans un certain nombre de sphères éclairées, on en vient à poser des questions concernant l'organisation d'un certain nombre d'activités en lien avec des questions très pratiques. Donc le commerce maritime permet de déployer l'astronomie, la comptabilité est indispensable au développement de la notion de nombre négatif, tout un tas de choses qu'on a appelées mathématiques mixtes et qui vont former la base, hein, d'un développement de nouveaux savoirs savants. Mais à mon sens, il y a un autre moment au moins aussi fondamental au 19e siècle qui est le moment où ça va se professionnaliser. Parce que tous ces gens qui travaillent dans l'univers savant, en fait, sont des aristocrates qui ont du temps, parce que quand on est le benjamin d'une grande famille et qu'on hérite ni des terres directement à gérer, ni comme le cadet qui doit rentrer dans les ordres pour faire fructifier ça auprès de Dieu, eh ben, on se retrouve à être dans une situation où on a du temps, où quand on est un moine, par exemple, hein, on peut avoir, en effet, du temps à consacrer à ses activités savantes. Ben, le 19e siècle, c'est le moment où tout ça se professionnalise. Les gens, ils en viennent à faire de la science directement, c'est leur métier. Ils sont scientifiques. Et ça, c'est un terme qu'on invente à ce moment-là, le terme scientifique. On trouvait le terme de science depuis longtemps. Ça renvoyait à l'idée d'un savoir en général. Mais le terme de scientifique, il apparaît au 19e siècle et il renvoie au fait que c'est désormais une profession. Et qui dit scientifique, dit un univers matériel qui lui est rattaché et des pratiques qui y sont associées. Et là, il me semble qu'il y a une affinité extrêmement forte entre le laboratoire et l'usine. Même si l'usine est loin d'être le seul lieu de déploiement de l'industrialisation, tout ça est plus complexe, mais on ne va pas avoir le temps d'entrer dans ces détails ici. Mais en gros, ce qui se joue dans les laboratoires, c'est de rendre possible la reproductibilité de phénomènes pour obtenir toujours le même résultat. Et ça, il me semble que c'est une affinité absolument fondatrice avec la production industrielle, dans la mesure où un industriel, un capitaine d'industrie, il n'a pas besoin de connaître la vérité du cosmos, mais il veut pouvoir y déployer une chaîne de production qui lui permet d'obtenir plus de stabilité, obtenir à partir d'un centre d'opération donné toujours le même résultat. Alors ça, si on veut, c'est de la raison, mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement la bonne façon de dire la chose. Mais ce qui est certain par ailleurs, c'est qu'il me semble qu'il y a donc cette affinité très forte entre déploiement des scientifiques et des laboratoires associés et déploiement industriel. Et ça, ça va reconfigurer le monde. Petit à petit, les laboratoires se constituent en entreprenant d'intégrer des phénomènes extérieurs au monde et de les stabiliser, ce qui rend du même coup immédiatement possible leur industrialisation. Mais dans un second temps, les laboratoires en viennent à déborder sur le monde. Et là, c'est évidemment un épisode auquel on arrive aujourd'hui, qui est à un niveau sans précédent, puisque désormais le monde est devenu laboratoire. Et on le voit aussi bien avec le Covid, d'une certaine façon, où on a des expériences épidémiologiques en temps réel pour savoir comment gérer des populations, et de la même façon qu'avec le numérique. Le monde est devenu laboratoire, on teste les populations en temps réel pour connaître leurs réactions sur telle application, sur telle zone géographique, etc. Donc ça, c'est un point, et à nouveau, je suis embêté quand on veut faire remonter ça à ce pauvre sergent, je crois qu'il était sergent de cavalerie, René Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, évidemment, on peut bien dire qu'il prépare tout un tas de choses, mais je pense que c'est donner trop d'importance à des courants intellectuels qui, aussi important est-il pu être, n'auraient jamais donné quoi que ce soit s'il n'y avait pas eu tout un déploiement matériel, des infrastructures, des laboratoires, des usines et tout un tas de choses qui ont massivement transformé le monde. Donc je ne sais pas si c'est le déploiement de la raison ce dont il s'agit, ou un déploiement industriel plus global qui, à un moment donné, va chercher de ce côté-là, mais qui va puiser aussi massivement dans l'irrationalité. Le déploiement industriel, on ne peut le comprendre qu'à partir d'un certain nombre de recours à des formes d'irrationalité contrôlées et maîtrisées. C'est tout le discours de Jean Baudrillard qui consiste à dire que la publicité, c'est ce qui vise à faire coïncider l'irrationalité des pulsions à la base avec le contrôle serré de la production au sommet. Donc là, on est dans un univers où on a deux choses qui tiennent très bien ensemble. Tout un tas de gens, il faut mobiliser le plus possible leurs pulsions irrationnelles. J'ai envie de consommer ça tout de suite, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, etc. Avec un contrôle très serré de la production pour faire rentrer en adéquation, pour mettre en adéquation ce que l'on produit avec ce que les gens pourraient bien vouloir. Quitte à leur inventer des besoins, bien sûr, au passage.
Merci beaucoup, justement. Donc, on peut mettre en doute le fait qu'effectivement Descartes soit responsable de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Descartes dit qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature, justement. On peut discuter du fait que ce soit la faute de Descartes ou pas, mais justement, ma question portait sur le fait dans quelle mesure cette ratio a conduit à la domination de la nature. Alors on a bien vu le développement du processus industriel, il y a la question de la domination de la nature par la technique, mais il y a aussi la question de notre ontologie, de notre rapport même en tant qu'être humain à la nature. D'ailleurs, le terme de nature est déjà en lui-même questionnable. Hugues Chopelin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Pour moi, je vais peut-être revenir à la question de... Tu parles là, Martin, de nature, de vie. Il y a des points de discussion, peut-être de friction, qui sont en partie liés à nos disciplines, là, sur l'importance du système industriel, sur l'importance des idées. En tout cas, on est d'accord sur dire l'idée, c'est pas de dire que Descartes est responsable de ce qui se passe aujourd'hui, ni de dire d'ailleurs que la phrase principale de Descartes est celle que tu rappelais, Guillaume. À mon avis, ce dont est porteur Descartes, qui est très important par rapport à la situation écologique, c'est pas le fait qu'il milite pour posséder ou maîtriser la nature, c'est qu'il institue l'humanisme. Il institue l'humanisme, une exceptionnalité humaine. Ça, et il institue. Il contribue, institue, il est porteur de ça. Pour revenir à la question d'avant, je me permets, il y a un point où on est d'accord, c'est qu'il se passe quelque chose au 19e siècle. Il se passe quelque chose au 19e siècle, et moi je ne dirais pas qu'au 19e siècle, ce qui se passe, c'est le primat du rationnel sur le raisonnable. Bon, de mon point de vue de l'histoire de la philosophie, il y a une tension qui se passe entre raison et vie. Entre raison et vie qui s'incarne dans un auteur, que je ne veux pas sacraliser, mais qui porte ça, qui est Hegel. raison et vie, c'est, alors on va pas rentrer dans les détails de raison et vie, mais chez Hegel, mais c'est le dernier philosophe pour moi, ou le dernier grand philosophe rationaliste. Il porte au bout d'une certaine manière le rationalisme. La raison d'ailleurs sort, n'est plus une raison humaine, c'est plus une raison, une lumière humaine, c'est la raison qui a l'œuvre dans l'histoire, qui a l'œuvre dans la vie de l'histoire. C'est l'époque des romantiques, c'est ce qui émerge à cette époque, c'est plus l'idée de nature, c'est l'idée de vie en philosophie, qui est très liée à la naissance de la biologie en même temps, la première théorie cellulaire, la théorie des cellules, la théorie de Darwin. Voilà, là, il y a quelque chose qui bascule, à mon avis, et en philosophie très massivement, en tout cas en philosophie continentale, franco-allemande, comme on dit, italienne, l'idée de raison disparaît d'une certaine manière. Le primat de la raison, que ce soit du côté du rationnel ou du raisonnable, disparaît. Au profit, en particulier, d'une lignée, d'une pensée de la vie où l'homme n'est plus un être exceptionnel, l'homme est un vivant parmi d'autres, hein, comme dit Darwin. Hein, Darwin, la raison, c'est comme le cou de la girafe, hein, c'est une spécificité humaine, mais ça fait que l'humain est un animal, pas comme les autres, mais un animal malgré tout, comme la girafe. Il a développé la raison pour survivre, d'une certaine manière, comme la girafe a développé son cou pour survivre.
Mais justement, et je me réfère à ce que vous pouvez dire par ailleurs, l'industrie et la science se sont aussi établies avec des mythes, le mythe de la science, le mythe de la vérité, de la raison, du progrès. Est-ce que tout ça, ça n'a quand même pas parti lié ? On dit que voilà, la raison est délaissée au profit de la vie, mais quand même on voit que cette idée de progrès, elle est vraiment à l'œuvre, elle se déploie. Dans quelle mesure ça, pour le coup, ça nous a quand même écarté de la vie ? En tout cas, c'est l'impression que je peux avoir à ce stade.
Je serais un peu mal à l'aise d'aplatir progrès et raison. Disons que, oui, l'idéologie du progrès a eu partie liée avec cette histoire-là, mais jusqu'où est-ce qu'il s'agit vraiment du concept de raison qui est mis en œuvre ? Là, je rejoindrai très volontiers Hugues là-dessus. Hein. Je ne crois pas que ce soit totalement central. Pour moi, le déploiement du scientisme, ce n'est pas le déploiement d'un rationalisme au sens le plus classique du terme. Il y a des versants du scientisme qui se veulent très rationalistes, mais en tant que tel, je ne suis pas certain que ce soit si important que ça au moment où les choses se déploient.
Et de mon côté, j'aurais, de mon point de vue, alors je ne suis pas historien ou un petit peu historien des idées, mais il y a quelque chose pour aller dans le sens de ta question, Martin, qui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement, on pourrait dire, malgré tout, il y a une certaine rationalité qui est à l'œuvre, dans le sens de ce que tu as dit, Guillaume, aussi, au XIXe siècle, en même temps qu'émerge sur le plan des idées, en science, hein, l'émergence de la biologie, hein, qui tranche avec ce qui précède, et en philosophie, l'idée de vie, là, il y a quelque chose, comme tu dis, un hiatus. Et aujourd'hui, de mon point de vue, alors, et les ingénieurs, alors, je fais le parallèle avec les ingénieurs que vous êtes, en face de moi, tous les trois, la formation des ingénieurs françaises est largement tributaire de ce qui précède la vie. De ce qui précède la vie. La raison, enfin, alors, il faudrait évidemment prendre des nuances, toutes les nuances qui. Mais le modèle de formation des écoles d'ingénieurs français, c'est l'école polytechnique. Hein, la première école, c'est 1747, c'est l'école de Mézières, l'école des Ponts, mais le modèle, c'est l'école polytechnique en 1794. Et 1794, c'est le primat des mathématiques. Le primat de la raison qui s'incarne dans une large mesure, conditionnée largement par les mathématiques. Ça, on a une époque où la vie, d'une certaine manière, n'a pas émergé. Le primat de la question de la vie. Et aujourd'hui, moi, il me semble, aujourd'hui, dans le capitalisme contemporain, disons depuis 1968, la question de la vie reprend. On parle de biocapitalisme, on parle d'une vitalité du capitalisme contemporain. Peut-être qu'il y aurait quelque chose là. Alors c'est ça qui est un peu paradoxal d'un point de vue historique de mon côté, c'est que la vie émerge en philosophie, disons à partir d'Hegel, fin de la première partie du 19e siècle, et elle émerge d'une certaine manière de façon forte dans le fonctionnement du capitalisme contemporain après 1968. Je ne sais pas gérer ce hiatus de 150 ans.
Et Hugues Chopelin, pour continuer sur cette idée de vie, et justement le tournant qu'il peut y avoir, ou en tout cas le déclenchement avec la fin du rationalisme, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette vie justement, ou de ce nouveau mouvement qui prend la place du rationalisme ? En quoi est-ce qu'il se différencie ? Quel est-il ? Qu'est-ce qui vient finalement remplacer le rationalisme en philosophie ?
L'alternative, l'humain ou la vie ? Voilà, ça c'est ce que je soutiens, enfin donc à prendre avec des précautions, c'est massivement en philosophie franco-allemande et pas qu'en philosophie franco-allemande, l'alternative à partir de là, c'est pas la raison ou la nature, c'est l'humain ou la vie. Donc ça veut dire que les gens qui vont être du côté de l'humain, ils vont développer des positions humanistes d'une certaine manière, une autre façon de le dire, c'est de dire que Darwin pèse, l'invention de Darwin, donc on est en 1850-1860, pèse, et là va y avoir deux types d'approches philosophiques pour intégrer. La philosophie arrive toujours après les sciences, hein. Elle arrive toujours après la science, elle ne fait jamais de la science, mais elle arrive toujours après la science. Descartes arrive après les maths, enfin voilà, je ne fais pas d'histoire, tu vois. Et après Darwin, il y a eu deux types de réactions. Il y a ceux qui ont dit, là, il y a quelque chose d'important qui se passe chez Darwin. Et là, du coup, on va avoir une philosophie de la vie. qui va évidemment pas être une philosophie darwiniste, plus subtile que ça. Deleuze, par exemple, est un philosophe qui a intégré d'une certaine manière Darwin un siècle après. Et puis il y en a qui vont dire Darwin, c'est pas du tout important. C'est une vision historique qui dit rien de l'ontologie. Et là, à ce moment-là, ça va être des positions qui dit rien de ce que nous sommes, nous, les êtres humains, dans le fond. Et ça va être des positions humanistes, mais qui vont pas revenir à la raison, largement, qui vont venir à des thématiques comme, et qui vont en particulier s'éloigner de la science. Hein. Je pense à un courant phénoménologique, après Heidegger, Lévinas, qui vont accorder d'importance à l'art. On va en passer dans un autre domaine, à l'art, plutôt qu'à la science et plutôt qu'aux mathématiques. Là, il va y avoir un autre type de philosophie, toujours humaniste d'une certaine manière, mais qui va être conditionnée moins par les maths, moins par ce qui a déterminé l'humanisme rationalisme, toujours des ismes, excusez-moi, mais quelque chose du côté de la poésie et de l'humanisme. Un humaniste qui est plus rationnel, ni raisonnable d'une certaine manière.
Mais alors justement, je me demandais, on a parlé de Darwin, qui développe ses théories au 19e siècle, et j'ai le sentiment que l'intervention de Darwin dans le champ scientifique et l'infusion de sa théorie dans la société n'a pas pour autant effacé un quelconque anthropocentrisme. Au contraire, comment on explique ce hiatus, Guillaume Carninot, entre la découverte par l'homme qu'il n'est qu'un animal par les autres, et pour autant une perpétuation de l'idée que l'homme est quand même au centre et prime sur le reste.
Je suis désolé, je suis un peu perdu, il y a beaucoup trop de ismes pour moi, je ne sais plus exactement comment me positionner, mais en tant qu'historien, je suis un peu bas du front de ce point de vue-là. Je n'accorde pas tellement d'importance en fait à ces discours-là, dans le sens où on peut dire exactement le contraire de ce qu'on fait. Quand George Bush, en 2003, c'est ancien maintenant, explique que le mode de vie américain n'est pas négociable, il nous dit quoi ? Il nous dit, alors qu'on n'arrête pas de proclamer que la nature, c'est ce qui est immuable, c'est ce qui advient sans l'être humain, et la culture, la société, c'est ce qui change, c'est le contraire de ce qu'on fait. On proclame que la nature est immuable, on passe notre temps à la défoncer, à faire des mines partout, à faire des trous qui font la taille de 10 stades de France. Et à côté de ça, on dit que la société peut bouger, et justement, les politiques nous expliquent que non, le mode de vie américain n'est pas négociable. Donc, ces hiatus, ils sont très courants, et c'est un peu l'inversion qu'on voit s'opérer. Moi, ce que je détecte au 19e siècle, c'est vraiment dans les années 1810 que ça se met en place de façon très nette, c'est ce double discours, où la nature, on l'invente comme ce qui est éloigné de toute action humaine, là où l'humain, par sa raison, pourrait se modifier, etc., précisément pour faire le contraire. On proclame l'immuable nature, d'ailleurs c'est très pratique écologiquement, hein, parce qu'on dit on peut creuser toutes les mines qu'on veut, du charbon il y en aura toujours, le système Terre il bouge pas, tout ça c'est réglé une fois pour toutes, et au moment où on proclame ça, bah, on commence à lancer des processus qui vont vraiment vraiment changer la donne de ce point de vue-là. Donc moi je suis un peu gêné pour répondre à ces questions sur est-ce que les discours ceci ou cela, parce que très souvent en histoire on problématise les discours pas par rapport à leur contenu même, mais par rapport aux gens qui les énoncent et le cadre dans lequel ils les énoncent. Et de ce point de vue-là, oui, forcément, on comprend des choses aussi. John Locke, par exemple, il théorise la propriété parce que c'est aussi un moyen pour lui d'expliquer que la propriété, c'est la vraie propriété quand on augmente la rentabilité financière de ce que l'on possède. Et ça lui permet de justifier les parts d'action qu'il a dans les colonies pour approprier les terres des Indiens. Donc on peut discuter de la philosophie de John Locke, mais à un moment donné, si on ne situe pas les choses, moi, c'est pour ça que je suis un peu perdu là, dans tous ces grands courants de pensée, c'est très, très efficace à mains égards, mais par rapport au discours des acteurs politiques, industriels et autres, je pense qu'il faut prendre avec des pincettes ces invocations, et qu'un même acteur politique peut un jour dire qu'il faut aller à fond dans la raison, le lendemain qu'il ne faut pas le faire, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a un problème quand on est philosophe, et que c'est son métier de réfléchir à des choses importantes et rationnelles, mais sinon, pour un acteur du quotidien, les gens passent leur temps à dire tout et son contraire.
Donc, finalement, ça voudrait dire que la technique, la réalité technique, la réalité matérielle va primer, va davantage être un moteur d'émergence de la raison dans les faits que des courants de pensée ou des philosophies. Et que du coup, dans ce cas, vous diriez que si on veut discuter de la raison, il faut discuter avant tout des réalités matérielles, vouloir reconfigurer les réalités matérielles.
Alors c'est un peu fort de dire que la technique et la matérialité priment sur tout. Moi je pense que tout ça, ce sont des choses qui s'intègrent, qui s'agencent ensemble, mais j'ai rien contre, hein, le fait de discuter de systèmes philosophiques, au contraire. Mais par exemple, Michel Foucault, il fait un pas de côté par rapport au rationalisme. Et justement, l'époque du rationalisme, il dit bah, c'est quelque chose qui s'organise autour de la représentation. Et ce qui se passe au 19e siècle, avec l'advenue de Darwin et toutes les choses que présentait très bien Hugues, bah, c'est quelque chose qui s'organise autour de ce que lui appelle l'histoire. Je pense que c'est pas un terme moi, qui me convient, parce que l'histoire aujourd'hui, c'est plus exactement ça... qu'on appelle comme ça, je dirais plutôt l'évolutionnisme. Le fait qu'il y a une profondeur dans les temporalités. Et Marx ou Darwin, de ce point de vue-là, même combat. Les deux ont le même geste théorique qui consiste à dire il n'y a pas une fois pour toutes donné les rapports d'échanges économiques pour Marx ou les espèces pour Darwin, mais il y a une évolution de ça dans le temps. Et ça, pour Foucault, c'est ce qui supplante ce qui, en apparence, pouvait ressembler à du rationalisme. C'est un mouvement plus profond. Alors, il ne donne pas de raison spécifique sur le fait est-ce que c'est avant tout matériel, technique, culturel, politique, juridique, je ne sais pas quoi. Ce que nous dit l'histoire ces dernières années, c'est qu'en fait, tout ça, c'est toujours et assez invariablement multifactoriel. Tous les grands changements d'ampleur, ils ont toujours plein de causes différentes à la fois. Sinon, quelque chose ne s'opère pas, comme le déploiement du capitalisme industriel, juste à partir d'un faisceau de causes données. C'est vraiment l'ensemble de choses multiples, et en effet, des recompositions culturelles, juridiques, environnementales, politiques, économiques, sociales, et j'en passe. La liste est évidemment technique, bien sûr, pas close. Et s'il faut revenir sur la question technique, je pense que c'est absolument central. Dans les formes même que la rationalité a pu prendre historiquement, et dans ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais c'est probablement une autre question.
Très bien, nous arrivons à la première moitié de cet entretien. Petit extrait musical, Plus rien des Cowboys Fringants, qui fait écho à l'émission que nous sommes en train de conduire.
Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons. Et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante. Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englutilisé et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies. Les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Nous reprenons cet entretien avec Guillaume Carnino et Hugues Choplin. Tout d'abord, pour pour relancer nos discussions sur ce qui a pu être évoqué. On va essayer de se poser la question aujourd'hui, que faire, comment voir les choses. On sait que les armes de la raison, de la science, sont aujourd'hui utilisées notamment pour combattre les négationnistes qu'on a pu évoquer en introduction. Et on se pose un peu la question de comment fonder la connaissance si on ne veut plus de raison, en tout cas si on ne veut plus de ce ratio d'une raison qui serait partagée, presque universelle. Est-ce que l'opinion pourrait fonder la connaissance ? Voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire la différence entre il n'y a plus de saison et moi je trouve qu'il ne fait pas chaud, ou encore en vrai 2 degrés ça ne change pas grand chose. Voilà, est-ce que vous voudriez intervenir là-dessus, que Chopin
Avec plaisir, avec plaisir, Silver. Moi, il me semble que s'il fallait, dans la lignée de le questionnement que vous avez dans cette émission, s'il fallait refonder la raison ou redynamiser la raison, sans la sacraliser ou sans l'idolâtrer, sans l'abandonner non plus, comme vous l'avez dit, j'irais du côté du collectif. C'est-à-dire que j'essaierais d'attacher raison et collectif. Pas raison et opinion, raison et collectif. Et donc là, ce qui me paraît très important, moi, à la fois d'un point de vue philosophique et à la fois d'un point de vue très opérationnel, très engagé, et je ne fais pas de hiérarchie entre les deux, pour moi, comme disait Guillaume tout à l'heure, ça fait système ou ça s'agence ensemble, j'attacherai raison et collectif. J'attacherai raison et je subordonnerai même la raison, subordonner c'est peut-être un peu fort, je le mettrai en second plan, pas secondaire, mais second plan, à des engagements collectifs. J'essaierai de constituer quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire de la philosophie à ma connaissance, c'est-à-dire une raison qui se constitue au sein d'engagements collectifs. Il y a eu dans l'histoire, je ne vais pas repartir sur l'histoire, mais ou même en épistémologie, penser à ce que c'est qu'un paradigme pour Kuhn. Un paradigme pour Kuhn, c'est une sorte de raison plutôt rationnelle, même si elle est habitée par des choses qui sont évidemment implicites, tacites, tout ça, une raison qui soude une force, une espèce de vision du monde qui soude de manière assez implicite un collectif de scientifiques. Bon, ça, c'est une première façon de considérer une certaine raison scientifique de façon collective. Pour moi, c'est beaucoup trop figé. C'est pas du tout à la hauteur des dynamiques. C'est intéressant, bien sûr, mais c'est pas à la hauteur, même si Kuhn parle de révolution scientifique, c'est pas à la hauteur des dynamiques, des transformations, des bifurcations, comme on peut dire aussi, qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui suscitent un engagement collectif, qui doivent convoquer un engagement collectif. Voilà. Donc un engagement collectif qui requerrait une raison, qui instituerait une raison, voilà la piste que j'aurais tendance à susciter alors, ou à pousser. Alors je dirais, il y a plein d'engagements collectifs hein, de ce type-là aujourd'hui. On peut penser aux conventions citoyennes. Martin, on a échangé là-dessus avant. Bon, conventions citoyennes pour le climat. Je ne suis pas sûr que ce soit des modèles de fonctionnement collectif aujourd'hui très intéressants. Je me permets de dire ça tranquillement, alors que la convention citoyenne pour le climat a fait plein de choses intéressantes. Bon, voilà, mais je coupe à ce niveau-là. On est trop, à mon avis, là, avec la convention citoyenne pour le climat, encore dans une démocratie libérale qui fait système avec une certaine raison, à mes yeux problématique.
Alors, j'ai bien envie de réagir à ça, il y a plein de choses en même temps. Je me demandais justement sur cette raison collective qui permettrait de se débarrasser, qui s'opposerait à la ratio dont on parlait en début d'émission. Est-ce que pour autant cette raison collective, elle permettrait d'avoir des sciences, développer des sciences aussi efficaces que celles qui sont les nôtres aujourd'hui pour mettre en évidence les troubles, les problèmes climatiques et les différentes pistes pour les résoudre. Et par ailleurs, pour rester sur la science, comment on fait quand on sait, voilà, on aurait aujourd'hui une vision un peu naïve qui pourrait être de dire, bon, bah, la science, c'est très bien, ça nous permet de mettre en évidence les problèmes climatiques, les façons de les résoudre, etc. Par contre, la technique industrielle, elle, effectivement, elle pose problème, ça ravage les écosystèmes, ça entraîne des modes de vie consumérisme, démesurés, etc. Pour autant, cette vision, voilà, on sait qu'elle est naïve et quand on sait que la science a toujours partagé avec la technique, avec l'industrie, qu'elles sont toujours intriquées, comment on peut considérer voilà, la science et sa valorisation comme une alliée dans la lutte contre la crise climatique, Guillaume Carlino?
Alors, à nouveau, avec des gros, gros concepts comme ça, je ne suis pas très à l'aise, dans le sens où... qu'est-ce qu'on appelle science ? Il y a des choses très très différentes dans la production de savoir savant, et ce qu'on appelle science aujourd'hui, alors évidemment on a en tête les experts du GIEC, voilà, des centaines de personnes qui se retrouvent pour mettre en place des modèles climatiques avec des machines colossales, etc. Mais dans le fond, la quasi-totalité de la production scientifique contemporaine, elle est extrêmement taylorisée et prolétarisée. Les gens, faire une thèse aujourd'hui en sciences dures, ça veut dire à peu de choses près, faire trois articles qu'on va mettre bout à bout, et on va prendre un tout petit petit bout du problème sur le comportement d'un véhicule autonome avec tel type de système embarqué dans tel type de situation. Et je pense que c'est pour cette raison aussi qu'on parle de désaffection des études scientifiques qui sont relatives, hein. Faut pas exagérer non plus, mais on n'est plus dans un univers où la science est cette chose très populaire. C'est pareil chez les ingénieurs. On a des gens qui sont au mieux chefs de projet d'un petit truc dans leur coin. Il n'y a pas de cette importance aussi grande qui était donnée antérieurement à ces activités. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce que c'est de la rationalité d'avoir un truc découpé en 1000 parties quand on fait un gigantesque projet européen avec à chaque fois 3 doctorants ici, 2 post-docs là, et puis des groupes de travail et des machins et des trucs? Je ne suis pas certain que ce soit de la rationalité en tant que telle. Par ailleurs, vous avez dit tout à l'heure la raison, est-ce qu'on peut opposer l'opinion, comme si l'opinion, la raison étaient historiquement les deux adviennent en même temps. L'idée d'opinion, elle se déploie au XVIIIe siècle, en même temps que se déploie l'idée de raison comme partagée collectivement, pouvant éclairer l'humanité. Tout ça, c'est le même mouvement. C'est d'ailleurs aussi le développement d'une certaine économie libérale, d'une économie de marché. Tout ça, ça advient en même temps. Donc je ne suis pas certain du tout qu'on puisse opposer ça. Après, moi, ce qui est certain en tant qu'historien, si vraiment je mets ma casquette d'historien, c'est que je n'ai aucune envie d'en finir avec, comment dire, la robustesse ou la véridicité de ce à quoi on peut aboutir quand on travaille longuement sur un sujet. Est-ce que c'est de la raison pure ou autre chose? Je ne suis pas certain. Mais ce dont je suis assez certain, c'est que quand je travaille 5 années en archives sur un sujet, eh ben je me retrouve à avoir un certain nombre d'avis sur le sujet qui me semblent beaucoup plus informés que quelqu'un qui n'aurait jamais travaillé sur ces questions. Et donc la robustesse d'un avis, mais à mon sens, c'est aussi ce que montre tout un tas de sociologie de la connaissance, hein. La robustesse d'un avis, il est très souvent lié aussi à des questions de ce que l'on a fait. Et un paysan qui a longuement travaillé à un endroit, il n'aura peut-être pas les mots scientifiques pour dire il s'agit d'une épizoutie de tel type, etc. Mais il a des connaissances très précises. D'ailleurs, l'un des gros enjeux aujourd'hui de l'industrie, c'est de réussir à capter ces connaissances, à les embarquer quelque part. C'est valable aussi bien pour les substances botaniques qui sont, enfin, d'origine botanique qui sont brevetées et qui font que on envoie des experts, hein, pour capter ce que les populations locales connaissent en Amazonie ou ailleurs. Et a posteriori, ça aboutit à une situation où, une fois que c'est breveté, les gens n'ont même plus le droit de se servir de ces remèdes qui étaient utilisés pendant longtemps. Alors c'est pour ça que moi, face à ce genre de situation, est-ce que c'est rationnel, est-ce que c'est pas rationnel? C'est très rationnel à un certain niveau. Est-ce que c'est de la raison? Ça me semble complètement déraisonnable à un autre. Je ne peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'il ne faut surtout pas abdiquer face à la construction intellectuelle de choses qui sont suffisamment robustes pour être défendues.
Et très bien pour ça. Et justement, poser la question, et vous pouvez tous les deux répondre, mais est-ce que cette raison corrective dont parlait Hugues Choplin tout à l'heure, est-ce que, à votre sens, ça permet d'éviter les écueils qui ont cours aujourd'hui? Alors pas forcément voilà, du relativisme, mais de ce dont vous parliez tout à l'heure, voilà, des gens qui disent bah, ce que disent les scientifiques, moi j'ai mon opinion, je trouve pas qu'il fasse si chaud, j'ai pas vraiment, oui, je pense que la technique va permettre de nous aider, de nous sauver même, pourquoi pas. Dans quelle mesure cette expertise permet ou pas d'empêcher ça? Est-ce que cette raison corrective, elle serait à même d'éviter ce genre d'écueil qu'on rencontre malheureusement très très souvent?
Je ne sais pas répondre à la question, Martin, tu ne m'en voudras pas. Par contre, ça dépend du collectif, j'ai envie de dire quand même, dans une certaine mesure. Ça dépend de qui on embarque dans le collectif. Je fais référence, là, j'ai en tête la communauté Archipel là, qu'on a découvert, donc je me permets de faire, j'espère pas trop de publicité, mais de mentionner quand même la communauté Archipel qui s'est créée il y a 2-3 ans, là, qui fera son prochain colloque à l'UTC dans 2 ans, et qui essaye de constituer des savoirs. Alors, dans leur charte, ils ont dit, j'essaie de répondre à ta question, hein, Martin, fournir, construire des savoirs scientifiques, c'est ça une exigence, et vivant, permettant une action efficiente. Tout à l'heure, tu as parlé d'action. Donc, fournir des savoirs scientifiques et vivants permettant une action efficiente pour transformer les manières de chercher, de vivre et d'habiter la Terre. Ça, c'est l'objectif d'un collectif particulier. Donc, des savoirs scientifiques, à mon avis, au sens très large, savoirs scientifiques et vivants, qui travaillent avec des associations, peut-être avec des praticiens du vivant, tels ceux que mentionnait Guillaume tout à l'heure. Voilà, là, on a peut-être un type de collectif particulier, une communauté scientifique au sens large particulière qui peut effectivement peut-être d'une certaine manière changer la donne. Alors, ce qui est très intéressant, je finis sur ce point, c'est que pour avoir assisté à leur conférence, la conférence de cette communauté là, avec Stéphane Croza il y a quelques semaines, ils vont sur des terrains sur lesquels ils ne sont pas bons. C'est-à-dire que c'est aussi un pari de ces engagements collectifs de scientifiques qui vont sur des terrains, sur le vivant ou sur les aspects sociaux pour des gens qui viennent de l'INRIA. J'ai rien contre l'INRIA, bien sûr, mais l'automatisme, l'informatique, a priori, ça ne prépare pas spécialement à poser des questions liées au vivant, liées aux humains. Et on a des petits collectifs qui se traitent, la question du centre, la santé, la question du sol, qui traitent et qui commencent à s'emparer de ces savoirs avec des compétences limites du hors-jeu. À mon avis, c'est très prometteur, mais il y a aussi ces risques-là, des constructions collectives intellectuelles robustes, comme disait Guillaume, mais pour le moment, elles sont, sur certains sujets, pas très robustes. C'est peut-être ce qui fait aussi les promesses et l'intérêt de la chose.
Merci beaucoup. Seconde interlude musicale, on va passer Les singes de Jacques Brel.
Avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté. Mais ils sont arrivés, et la fleur est en pot, et l'oiseau est en cage, et nous en numéro. Car ils ont inventé prison et condamné, et casier judiciaire et trou dans la serrure, et les langues coupées des premières censures. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il n'y avait pas de problème quand poussaient les bananes, même pendant le carême. Mais ils sont arrivés bardés d'intolérance pour chasser en apôtre d'autres intolérances. Car ils ont inventé la chasse aux albigeois, la chasse aux infidèles et la chasse à ceux-là, la chasse aux singes sages qui n'aiment pas chasser. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, l'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province. Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la province se meurt, la princesse se vend. Car ils ont inventé l'amour qui est un péché, l'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères maquerelles. Et c'est depuis lors qu'ils sont syphilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre, quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, et c'est à coups de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe à napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes de mon quartier.
La raison d'État a remplacé la raison, dit Jacques Brel. Bon, on voit, ça fait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume Carninot, entre une raison plutôt logos et une raison un peu omnipotente, déraisonnable, instrumentale. Ce débat, d'une certaine manière, évidemment, de façon beaucoup moins caricaturale, il a aussi lieu chez les écologistes, d'une certaine manière. C'est-à-dire au dilemme Trump-Musk, un peu bêta, que j'ai exposé en introduction, on a aussi un autre dilemme aujourd'hui du côté des écologistes, qui est un peu celui Jean Covici-Barrot. C'est-à-dire ils sont tous les deux scientifiques, ils ont des approches différentes des écologistes, c'est-à-dire que Jean Covici se situe dans une logique qu'on pourrait qualifier de plutôt rationaliste, ce qui est celle de la décarbonation et qui explique d'ailleurs sans doute son engagement plutôt pro-nucléaire d'ailleurs. Et à l'inverse, écoutez ce que disait Barrot dans une intervention au Shift Project, donc une institution qui est fondée par Jean-Marc Jancovici.
Il n'y a pas de question écologique. Vous savez que oikos, en grec, c'est la demeure, c'est le patrimoine. Logos, c'est pire encore, hein, c'est la raison, le discours, la parole. Est-ce qu'on veut vraiment de ça, d'un discours sur les biens? Parce que c'est ce que signifie écologie, finalement. la métaphysique occidentale, vous savez, c'est un peu comme le pharmacon de Platon. C'est un remède et c'est un poison. Logos, c'est le Graal et c'est la boîte de Pandore. Tout devenir est chaotique, instable, inécrit. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Logos, c'est l'ennemi. C'est l'agent pathogène qui infecte une pensée sans anticorps. Logos, c'est le soleil. Et en un temps de canicule comme aujourd'hui, le soleil est dangereux. Il brûle et il efface les nuances. L'écologie, c'est une construction fondamentalement ancrée sur les couples binaires, nature, culture, présence, absence, homme, femme, raison, passion, tout ce dont il faut se défaire.
On pourrait dire que Aurélien Barreau ne fait pas de distinguo entre logos et ratio. Pour autant, ce qu'il dit est quand même assez intéressant, parce que justement, il s'oppose à Jean Covici et à la logique un peu ingénieriale. Il lui reproche ça. Il dit dans une autre interview, il faut que nous soyons un peu poètes, et justement invite à dérisser le côté rationnel et rationaliste de façon générale. Qu'est-ce que ça vous évoque?
La seule chose que je peux dire, c'est ce que j'ai dit depuis le début, que je ne sais pas quoi faire de ça, parce que je ne vois pas exactement où c'est qu'on irait si on défend le fait qu'il ne faut plus être rationnel et ne plus penser. À un certain niveau, moi j'ai le sentiment que c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas rater, et c'est pour cette raison que j'accède tout à fait à ce que tu présentais, Hugues, sur la raison collective, mais que d'une certaine façon, malheureusement, même si j'ai envie de défendre ça aussi, je crains qu'il y ait un peu d'anachronisme là-dedans, dans le sens où je l'appelle aussi de mes voeux, mais je ne suis pas certain que le monde actuel nous porte vraiment dans cette direction. La raison comme production collective, même si c'est pas l'alpha et l'oméga et que c'est très critiquable aussi, on en a des exemples avec la construction de la République des lettres, qui s'organise autour de l'imprimé, autour du manuscrit, autour du papier, à une époque où la circulation des idées est lente, mais laisse le temps à l'argumentation. Ça, c'est une forme de raison collective qui a fait ses preuves à certains moments, même si elle a pu donner des choses qui sont pas forcément souhaitables par ailleurs, et il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de quitter cet univers. L'univers technique sur lequel on se fonde la pensée contemporaine, c'est un univers qui ne laisse pas la place, à mon sens, malheureusement, à cette raison collective. On est dans un univers de communauté d'individus. Et communauté, au sens que j'aime le moins, à la limite, c'est une communauté comme un espace qui est fermé à ce qui n'est pas lui. Et historiquement, chaque forme de rationalité qui a pu exister a toujours été indexée sur les techniques qui sont les siennes. Écrire sur du minéral, écrire sur de la peau d'animaux, ça ne fait pas le même type d'écrit ni le même type de pensée que quand on écrit sur du papier qui est produit industriellement, que quand on écrit sur des écrans. Et aujourd'hui, l'univers contemporain, que ce soit les communautés numériques, c'est Elie Pariser qui, dès 2006, parle de filter bubble, la bulle de filtre, le fait que par le numérique, on peut n'avoir accès qu'à ce que l'on connaît déjà et ce qui nous intéresse déjà. Donc je suis passionné de basketball en NBA, je suis passionné d'archéologie mésopotamienne, je peux vivre dans un univers qui me renvoie uniquement cette passion en permanence. Et il dit que c'est très dangereux parce que la condition de la démocratie, c'est d'être en contact de choses que l'on n'a pas choisies. Et par conséquent, si je peux vivre que dans cet univers, sachant que là, c'est pas très grave, l'archéologie mésopotamienne, enfin, si, c'est très grave à un certain niveau, mais pour des gens, c'est la haine raciale, ce qui les passionne. Et donc, évidemment, vivre dans un univers qui ne leur renvoie que ça, c'est très particulier. Et je pense qu'à tous les niveaux, on est poussé vers ça aujourd'hui. Depuis les gens qui regardent des séries sur leur télé, sur leur smartphone, dans les transports collectifs qu'on voit au quotidien, hein, les séries contemporaines sont pensées et réalisées industriellement de façon à ce que chaque personne... On n'est plus dans la télévision de grand-papa, grande-maman, hein, c'est plus ça, où il y avait un poste central dans le foyer qui donnait un truc qui devait plaire vaguement à tout le monde et qui était faiblement addictif parce que de toute façon c'était présent en tâche de fond. Les séries contemporaines sont produites de façon industrielle pour aller chercher chaque niche, pour que chaque segment d'individus puisse être chopé et aboutir à 5,5 milliards de profits pour Netflix pour l'année 2023. Et ça, je pense que c'est le même mécanisme que cette bulle de filtre. Le fait qu'aujourd'hui, et grâce aux prothèses numériques, on peut très facilement vivre dans un univers qui ne fait que nous renvoyer ce que l'on connaît déjà. Et après, on se plaint évidemment du développement de fake news, mais les fake news, ça n'est jamais qu'un biais de confirmation extrêmement classique. Je suis persuadé que tel groupe de gens mentent, donc je vais avoir régulièrement des informations qui me renvoient l'idée que tel groupe de gens mentent. Et s'il n'y a pas de confrontation, c'est pour ça que j'accède tout à fait à ce que tu présentais, Hugues, sur la raison collective, s'il n'y a pas de confrontation, s'il n'y a pas possibilité de débat, si on n'est que dans l'invective ou la chasse aux sorcières, qui est ce qui est massivement en train de se produire aujourd'hui, et quels que soient les bords politiques d'ailleurs, il n'y a plus de raison collective, il n'y a même plus de débat, il n'y a plus de discussion. Et ça, à mon avis, c'est absolument dramatique.
Alors, par rapport à ce que vous avez dit, pour réagir, en fait, la question, finalement, ça serait peut-on renouer ou nouer avec une raison collective, avec une démarche du temps long, une dialectique, quelque chose que l'on construit collectivement face à l'altérité. Voilà. Est-ce que ce renouvellement de la raison par une raison collective est possible? Et que penser finalement de cette proposition d'Aurélien Barreau qui vise à mettre aussi sur la table la question de ce qu'on pourrait appeler l'irrationnel? Lui, il parle de poésie, de sentiment, de symbolique. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugues Choplin?
Je dois dire que l'intervention d'Aurélien Barreau, ce que j'en ai entendu et compris, je ne suis pas particulièrement fan. Hein, la manière dont il a effectivement barré, si je puis dire, le logos, l'écologie n'est pas née du couple nature-culture. Hein. L'écologie, c'est un terme qui apparaît en 1864 ou 66 par Ekman, dans la lignée de Darwin. C'est justement un moment où le couple nature-culture ne fonctionne pas. Donc, bon, voilà, faudrait argumenter, mais je suis pas convaincu. Ça veut pas dire qu'il faut ne pas mobiliser les poètes ou les littéraires d'une certaine manière. Mais sur le renouvellement, je veux dire, par rapport à la discussion avec Guillaume interroge les soubassements, comme il dit, techniques de notre situation contemporaine. Moi, effectivement, je serais plutôt du côté des soubassements collectifs. Mais tu parles de renouvellement dans ta question, Silver. Il y a des événements. Il y a des choses dans la vie qui sont chouettes, auxquelles moi je crois plutôt, qui sont des événements. S'il y a matière à renouvellement, c'est qu'il y a des événements. Alors là, je pense que c'est peut-être un point de dissensus important avec Guillaume, mais peut-être que je me trompe. C'est que je crois, à la différence, je crois, d'un certain nombre d'historiens, qu'il y a des événements, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures imprévisibles qui peuvent engendrer des situations nouvelles qui peuvent être encore pires, ou en tout cas qui peuvent être meilleures. Et ça, j'y crois beaucoup. Je pense que, par exemple, on n'a pas tiré les conséquences du Covid. Le Covid a été un événement, au moins la première vague, dans une large mesure. Les conséquences événementielles, les conséquences collectives, peut-être techniques, du Covid n'ont pas été tirées. Cette communauté dont je parlais tout à l'heure, Archipel, vient de cet événement-là. Donc moi, j'aurais tendance à attendre d'une certaine manière des événements. On ne les organise pas, les événements, sinon ce n'est pas des événements, mais à les attendre pour renouveler les choses collectivement. Et c'est fort possible que dans ces renouvellements collectifs, l'art, la littérature, j'étais la semaine dernière avec quelqu'un qui décrit une écologie, l'écriture à la première personne, qui laisse place en même temps une écriture du « nous », donc une littérature écologique d'une certaine manière, une écriture qui n'est plus une écriture du récit, qu'une écriture fragmentaire. Bon, je finis la parenthèse. Elle a place, à mon avis, dans des débats qui peuvent largement dépasser la littérature. Voilà. Mais renouvellement, oui. Événement, oui.
Et justement, pour être un peu plus concret, on parle d'activisme, à votre sens, est-ce que, voilà, on a pu critiquer la position de Barreau, sans doute à juste titre, est-ce que la position un peu rationaliste d'un Jean Covici qui, voilà, on peut avoir le sentiment qu'il fait toujours une distinction entre l'homme, son environnement, on va mettre des taxes carbone, on va décarboner l'économie, etc., je crois que c'est ça son slogan, est-ce qu'on n'est pas encore dans une logique de rationalité instrumentale pure et dure, et s'il ne faut pas faire ça, alors quels sont les meilleurs moyens de se mobiliser, surtout techniquement, en termes d'organisation du social, quoi?
La seule chose que je peux dire, c'est qu'à nouveau, j'aime pas trop ce curseur sur la raison, parce que je suis pas sûr que ce soit une position purement rationaliste, Jean Covici. C'est aussi un pari sur un certain nombre de choses. Hein. Ils partent du principe que l'organisation actuelle peut continuer à peu près à certains égards en modifiant le curseur sur certains aspects. Donc c'est un pari comme un autre. Il n'y a pas de rationalité profonde derrière ça qui lui permet de dire que ça va marcher définitivement. Il y a des indicateurs qui lui permettent de dire que ça va dans ce sens ou autre. Pour moi, ce qui le caractérise plutôt, c'est une position technocratique. Le fait qu'on a des ingénieurs surplombants qui connaissent la vérité du monde et qui vont donc exposer au peuple ignorant quelle est la marche à suivre. Ça, de ce point de vue-là, il me semble que ça le caractérise davantage. Après, pour ce qui est de cette opposition dans le rapport, est-ce que c'est la poésie qu'il faut mettre face à ça? Moi, j'ai envie de dire, ni l'un ni l'autre, cette fois-ci, parce que c'est Bernard Charbonneau qui a écrit un livre qui s'appelle « Nuit et jour, science et culture », où il diagnostique nos sociétés contemporaines comme étant schizophrènes, c'est-à-dire schizophrènes, pas au vrai sens psychiatrique du terme, schizophrènes au sens de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le sens commun qui n'est pas le vrai sens médical de la schizophrénie. Cette idée que c'est comme si on était un Janus bifrons, un être à deux faces, et qu'on a séparé deux aspects de la société, nuit et jour, qui ne se rencontrent jamais, la nuit et le jour. Par principe, ils sont absents quand l'un est présent, l'autre n'est pas là. Nuit et jour, science et culture pour Charbonneau, c'est le fait qu'on a scindé, ce qui n'était pas le cas en Grèce ancienne. Platon est extrêmement énervé contre Homère, parce que Homère, il ne fait pas de la poésie comme ça, et d'ailleurs c'est probablement un collectif Homère s'il existait, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, si Platon est énervé contre l'Iliade et l'Odyssée, c'est parce que c'est ce qui va enseigner la vérité aux futures générations. C'est ça qui énerve Platon. Ça veut dire qu'à un niveau, c'est pas de la poésie désincarnée qui n'a aucun impact. On fait l'éducation des jeunes générations, l'éducation intellectuelle. Et donc, en ce sens, nuit et jour pour Bernard Charbonneau, ça veut dire que d'un côté, on a mis la recherche de la vérité, la science, et de l'autre, celle du beau et de l'esthétique. Et à partir du moment où on fait ça, eh bien, on a séparé radicalement deux sphères. Et il me semble qu'il est très important de les relier entre elles, ce qui permettra probablement aussi, si on veut le formuler autrement, de relier logos et ratio à un certain niveau. Et Charbonneau est pessimiste en ce sens, il dit si on le fait pas, on est comme un schizophrène attendant son suicide.
Eh bien, raison corrective, unification du ratio et du logos, de la poésie et des sciences. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Graphite et à bientôt pour une nouvelle émission des Échos de l'innovation.